avec le pianiste. Et donc vous êtes sur scène, vous disparaissez, vous revenez.
Ah non, je ne disparais pas.
Vous êtes là tout le temps.
J'accompagne, j'entoure, j'essaie de raconter, d'expliquer. Et à chaque fois, parce que ça fait, je sais pas, ça doit être le 20e ou 22e de ces grands concerts que nous donnons, Salgavo. À chaque fois, il y a cette espèce de magie. La mayonnaise prend, il se passe quelque chose. Le public est complètement emporté. J'espère que ce sera la même chose cette fois-ci. Il n'y a pas de raison.
Bah évidemment, moi j'ai hâte de découvrir ça et vous m'avez donné parfaitement envie. Franck, il y a ce 19 février, donc tous les renseignements sur votre intervention et celle de ces artistes sur le site de la salle Gaveau ou sur le site de Radio Classique, je pense. Et il y a les grands dossiers de l'histoire, et ça c'est tout de suite.
Alors ça c'est tout de suite, et nous allons parler de l'organisateur de la Révolution, comme on l'a surnommé, Lazare Carnot, personnage passionnant.
Franck Ferrand, c'est dans un instant. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de Radio Classique et je vous donne l'heure. Il est 9h, bien tassé. Les informations, Pierre Pilet.
39 morts, plus de 120 blessés. Nouveau bilan des autorités après la collision entre deux trains à grande vitesse hier soir en Andalousie, dans le sud de l'Espagne. L'un de ces trains a déraillé et a été percuté par le second. Les causes sont inconnues pour le moment. L'accident a eu lieu environ 200 km au nord de la ville de Malaga. L'Union européenne prépare sa riposte face à la menace de Donald Trump d'imposer des droits de douane. Un sommet extraordinaire des dirigeants des 27 pays de l'Union va avoir lieu dans les jours qui viennent. Annonce hier soir du président du Conseil européen Antonio Costa. Ce week-end, Donald Trump a menacé 8 pays, dont la France, de droits de douane supplémentaires de 10% à partir du 1er février. Il cible les nations qui ont envoyé des militaires participer à une mission au Groenland il y a quelques jours, territoire danois autonome convoité par le président des États-Unis. Après 3 mois de discussions au Parlement en France, le marathon budgétaire semble approcher de la ligne d'arrivée. Conseil des ministres cet après-midi, à l'issue duquel le chef du gouvernement va dévoiler la stratégie retenue pour mener le débat à son terme. Sébastien Lecornu, concrètement, va dire s'il utilise l'article 49.3 de la Constitution qui permet d'adopter un texte sans vote à l'Assemblée nationale. Les élèves de terminale peuvent commencer à faire leurs vœux à partir de cet après-midi sur Parcoursup, la plateforme d'accès à l'enseignement supérieur. D'ici le 12 mars, ils peuvent choisir 10 formations maximum, sans obligation de les classer par ordre de préférence. Ils auront ensuite jusqu'au 1er avril pour finaliser leur dossier. Près d'un million de candidats vont s'inscrire, selon le ministre de l'Enseignement supérieur. SNCF Voyageurs commande 15 nouveaux TGV à Alstom pour environ 600 millions d'euros. Des rames destinées notamment à développer l'offre entre la France et la Belgique. Information transmise il y a quelques minutes. Les deux départements Corse, les Pyrénées-Orientales et l'Aude, placés en vigilance orange, pluie, inondation par Météo France. L'Aude et l'Hérault sont également en alerte orange pour risque de crue.
Suivez le Point Bourse avec Bourse Direct, le partenaire de tous vos placements. Bourse, assurance vie, épargne.
Et nous suivons l'ouverture avec Marjorie Ancelot ce matin. Marjorie, bonjour, quelle est la tendance ?
Bonjour Pierre, bonjour à tous. Eh bien, pour commencer, parmi les faits marquants de ce matin, l'or est propulsé à de nouveaux sommets à presque 4 700 $ l'once. À l'inverse, évidemment, les marchés d'actions sont en baisse. Le CAC 40 perd quasiment 2%. L'indice parisien est renvoyé sur les 8100 points. À ce niveau-là, s'il ne rebondit pas en cours de séance, ça pourrait être sa plus forte baisse depuis l'été dernier. Et jusqu'en Asie, les investisseurs actions réagissent négativement à l'annonce, vous en avez parlé, de Donald Trump d'imposer au Danemark et à 7 autres pays européens, dont la France, de nouveaux droits de douane parce qu'il s'oppose au rachat du Groenland par les États-Unis. Alors évidemment, la grande majorité des entreprises du CAC 40 sont des entreprises exportatrices de biens vers les États-Unis, ce qui pèse sur leurs actions. Airbus perd 2% et la baisse du dollar n'arrange rien à ses affaires puisque le constructeur d'avions fabrique en euros et vend en dollars. LVMH et ST Microelectronics reculent pour leur part de 3%, tout comme Danone. À l'inverse, le fabricant d'armes Thales progresse de 2%. C'est l'une des rares hausses ce matin au sein du CAC 40.
Merci Marjorie. 9h04. Votre matinée continue sur Radio Classique. Voici Franck Ferrand et le premier grand dossier de l'histoire de la semaine. Bonjour Franck.
Bonjour mon cher Pierre, un dossier biographique si l'on veut. Il y a très longtemps que j'avais envie de parler de ce personnage majeur dont les circonstances ont fait que je n'ai jamais eu encore l'occasion de vous dire ne serait-ce qu'un mot. Alors on va se rattraper ce matin. Voici Lazare Carnot.
Les grands dossiers de l'histoire avec Franck Ferrand sur Radio Classique.
Nous sommes encore sous l'Ancien Régime, à la fin du mois de mars 1789, ça va pas durer longtemps l'Ancien Régime, et nous sommes à la prison de Béthune, en Artois. Les portes se referment sur un bel officier du génie, il a 35 ans, il s'appelle Lazare Carnot. Deux gardes l'ont escorté jusqu'à sa cellule, et voilà que maintenant, on l'enferme. Oh, il est furieux, ce jeune homme qui estime la condamnation arbitraire. Il était en poste à Béthune, Lazare, depuis quelques mois, pour renforcer les fortifications, quand il a fait la connaissance de la fille du chevalier de Bouillet. Oh, il était sur le point de l'épouser, quand il a appris que le chevalier avait décidé de promettre sa fille à quelqu'un de nettement mieux, n'est-ce pas? À un officier de sang noble. Lazare Carnot est un roturier, fils d'un notaire bourguignon. Alors, il est furieux de ce qui s'est passé. Il a provoqué un scandale pour essayer de faire échouer ce mariage. Le chevalier s'est plaint auprès du comité du génie militaire qui a donc envoyé le jeune homme en prison. Et voilà ce qu'il en coûte de contester l'ordre établi à la fin du règne du roi Louis XVI. Pour Lazare, c'est un motif supplémentaire de détester, de honnir cette aristocratie. Ça fait 15 ans déjà qu'il est bloqué dans ses ambitions parce qu'il n'est pas de sang noble, qu'est-ce que vous voulez. Il a fait l'unique école militaire qui accepte par dérogation des roturiers, l'école royale du génie de Mézières. Pour y entrer, il a dû produire une recommandation qui indiquait qu'il vivait noblement, tout est dit. Et au sortir de l'école, pour essayer d'accéder au grade supérieur, réservé uniquement aux aristocrates, il a falsifié sa généalogie, mais ça n'a pas eu de succès. On a éventé le pot aux roses. Et pour autant, Lazare n'a pas renoncé. Il se tourne à ce moment-là vers la recherche. Il étudie la physique, l'ingénierie. Il écrit un essai, brillant essai sur les machines en général. On est là en 1778, tout début du règne de Louis XVI. Et puis, à 30 ans, il a écrit un éloge de Vauban, qui est un traité de défense militaire que les académies, les sociétés savantes vont remarquer. Je parle d'académie et de société savante, on est dans cette période de bouillonnement tout à fait extraordinaire de la fin de l'Ancien Régime où tout ça se multiplie un peu partout, dans tout le pays. Il rejoint d'ailleurs la société littéraire d'Arras, qui s'appelle les Rosati, dans laquelle il va croiser un certain Robespierre. Oui, c'est un avocat que pour l'instant on n'a pas encore tout à fait remarqué, ce Robespierre. Faut savoir que dans ces sociétés, Carnot commence une véritable carrière qu'on doit pouvoir qualifier d'intellectuelle, même si le mot effectivement n'existe pas encore. Alors, comment définir la posture du jeune Lazare Carnot? Il se dit déiste, cosmopolite, opposé aux guerres de conquête. Il critique bien sûr la société d'ordre, avec cette prééminence de la noblesse qui, vous l'avez compris, a été pour lui un véritable frein pendant toute sa jeunesse. Quand il sort de prison, quand il sort de sa prison de Béthune, là, au bout de 2 mois, on est maintenant à la fin du mois de mai 1789, eh bien, il réalise que c'est trop tard. Il a raté la convocation des États généraux à Versailles, qui voulait, vous savez que Louis XVI avait l'intention de rétablir la situation financière du royaume. Il convoque, après plus d'un siècle d'absence, les États généraux. C'était pour Lazare Carnot une occasion, ça. Ben oui, mais à l'époque, il était sous les verrous, qu'est-ce que vous voulez. Bref, le capitaine de génie Lazare Carnot, quand je dis, je devrais dire plutôt le capitaine du génie, parce que c'est l'arme dans laquelle il excelle, va adhérer tout de suite, sinon à la révolution, parce que c'est peut-être un peu tôt encore pour parler de révolution, en tout cas aux idées nouvelles. Il applaudit la prise de la Bastille, il est de ceux qui se réjouissent de l'abolition des privilèges, donc respectivement 14 juillet et 4 août, vous savez ça. Il soutient aussi les soldats insurgés à Nancy contre leurs officiers contre-révolutionnaires. Bref, il a bien l'intention, dans cette nouvelle société qui est en train de se dessiner, de jouer un rôle nouveau.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
On le voit à la tête du Club des Amis de la Constitution d'Arras, dont il préside donc le club.
Et le 31 août 1791, le voilà élu député du Pas-de-Calais. On est à l'époque encore dans le suffrage censitaire masculin, mais ça ne l'empêche pas, lui, d'être élu. Et le voilà donc à Paris, dans cette assemblée législative nombreuse, 745 députés qui arrivent là pour la deuxième partie de l'année 1791, celle qui est un peu compliquée, bien sûr, avec puisqu'on est au lendemain de la fuite avortée du roi vers Montmédis, qu'on appelle la fuite à Varennes. Grâce à ses compétences militaires, le jeune militaire prend part au comité militaire de l'Assemblée, donc ça c'est très important. Il va aussi entrer au comité de l'instruction publique, armée et éducation. Il estime que ce sont deux domaines absolument stratégiques, il n'a pas tort. Et il dit que, par définition, ces institutions doivent être ouvertes à tous, et non pas seulement aux nobles, mais de toute façon il y a plus de privilèges en France. Il est favorable à la monarchie constitutionnelle et après la fuite du roi, donc, il a voté la mise en accusation du ministre de la Marine pour complot. Le ministre en question s'appelait Molleville. Ça ferait un beau dossier, ça d'ailleurs. Et puis également, il est favorable à la mise en accusation de Lafayette pour trahison. Vous comprenez bien que pour lui, toute cette noblesse militaire, c'est ce qu'il aborde, c'est ce contre quoi il s'est toujours battu. En août 92, les fédérés prennent les Tuileries, vous le savez. Le roi va être incarcéré bientôt à la tour du Temple. En septembre, il y a de nouvelles élections avec une assemblée législative qui devient convention nationale. Et à ce moment-là, Carnot est réélu. Toujours, il est toujours député du Pas-de-Calais. Je votais habituellement avec ceux qu'on appelait les montagnards, non que je partageasse toujours leurs opinions à beaucoup près, mais pour ne pas voter avec un parti. Le parti en question, c'est la Plaine, qui me paraissait infiniment plus dangereux. En révolution, on se voit presque toujours réduit à ne pouvoir opter qu'entre un mal et un autre mal plus grand. Grande intelligence politique de ce stratège qui, par-dessus tout, craint un retour en arrière. Ce qu'il veut pas, c'est voir revenir l'ancien régime, lui. Et c'est ce qui va le pousser à voter la mort du roi. Jamais, je l'avoue, devoir ne pesa davantage sur mon cœur que celui qui m'est imposé. Mais je pense que pour prouver votre attachement aux lois de l'égalité, pour prouver que les ambitieux ne vous effraient point, vous devez frapper de mort le tyran, dit-il. On sent l'esprit politique derrière cet engagement radical. La France, désormais, est donc une république. Carnot organise la levée en masse dans le Nord pour essayer de grossir les rangs de cette armée révolutionnaire. En août 93, le comité de salut public se constitue sous l'égide de Danton. Ça va être bientôt la terreur. Hein. C'est même l'entrée dans la terreur. Et qui, Danton, choisit-il pour relever les défis militaires immenses qui se posent à cette jeune république très secouée? Eh bien, Carnot, justement, qui devient, incroyable promotion, le voilà maintenant ministre de la guerre, avec une stratégie sous la main pour repousser les ennemis. Seulement, Danton va bientôt être lui-même évincé, et celui qui prend la tête du comité de salut public, j'ai pas besoin de vous le nommer, c'est Robespierre, bien sûr. Aux Tuileries, le bureau militaire de Carnot coordonne les 14 armées de la République. Il faut produire des armes par milliers. Il faut nommer toute une génération d'officiers, des gens qui n'avaient même pas, dans leur esprit, pensé qu'un jour ils seraient là pour commander des hommes. Et Carnot travaille de 8h du matin à 2h dans la nuit. Il se déplace sur le terrain pour défendre les frontières. En octobre 1793, à Vatigny, on est au sud de Maubeuge, là, il ordonne une attaque de front qui va être assez victorieuse, hein, puisque 45 000 Français très motivés vont faire face à 21 000 Autrichiens un petit peu démobilisés. Et Carnot rentre à Paris, auréolé de cette victoire décisive, la plus importante de la Révolution. Qui a ce jugement? Qui dit que Vatigny a été la plus importante des victoires de la Révolution? C'est Napoléon, figurez-vous. Tout ça donne évidemment du poids à Carnot, dans un gouvernement pour le moins chaotique, du poids pour s'opposer à Robespierre et à Saint-Just, qui sont là en face et qui, évidemment, imposent la terreur. Et Carnot, lui, va s'opposer à cette terreur. En avril 94, il déclare devant le comité de salut public « Vous accusez Danton de trahison et vous n'avez pas une preuve contre lui. Nul n'est à l'abri de soupçons calomnieux et je n'entends alléguer ici que des soupçons. Songez-y bien, une tête comme celle de Danton en entraîne beaucoup d'autres. Si vous frayez le chemin de l'échafaud aux représentants du peuple, nous passerons tous successivement par ce même chemin. » Remarquable lucidité de ce militaire. Injuste et furieux le menace. Sache qu'il me suffirait de quelques lignes pour dresser ton acte d'accusation et te faire guillotiner dans 2 jours. Je ne te crains pas, répond Carnot. Ni toi, ni tes amis. Vous êtes des dictateurs ridicules. Et malgré tout, Danton va être guillotiné en avril 94. Le prochain sur la liste, celui qui doit monter sur l'échafaud après Danton, normalement, logiquement, ce devrait être Carnot. Le final de la 4e symphonie d'Henri-Joseph Rigel par le Concert de la Loge, sous la direction bien sûr de Julien Chauvin.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Il n'est pas du genre à se laisser intimider Carnot par les menaces de Saint-Just et de Robespierre. Il est encore indispensable sur le front, il le sait bien. Il emploie là une technique d'ailleurs de renseignement nouvelle qui est le ballon d'observation. Il crée même l'école nationale d'aérostation avec 2 compagnies équipées de 4 ballons. Le 26 juin 94, on est à la bataille de Fleurus, pas loin de Charleroi. Carnot fait envoyer dans les airs un ballon captif avec un observateur qui décrit les positions des Autrichiens, leurs mouvements, etc. Le ballon s'appelle l'Entreprenant et il va ordonner une offensive frontale qui va se révéler victorieuse, c'est la victoire de Fleurus. Et puis il y a une autre innovation à la même époque, c'est le tout nouveau télégraphe optique à sémaphore. C'est l'invention de Claude Chappe. La première ligne de sémaphore va permettre d'informer Carnot presque en temps réel de cette victoire française de Condé sur l'Escaut. Bref, ces victoires le protègent d'une certaine manière. Pendant ce temps-là, il y a pas mal de têtes qui continuent de tomber. Il y a 140 députés qui déjà sont passés sous le couperet de la guillotine. À la Convention, les alliés de Saint-Just demandent l'arrestation de Carnot. Et là, il y a un député qui se lève qui dit « Oserez-vous porter la main sur celui qui a organisé la victoire dans les armées de la République ?» Et là, tout le monde dit « Oui, il a organisé la victoire !» On passe à l'ordre du jour et les députés épargnent celui que désormais on va donc surnommer l'organisateur de la victoire. À la fin de juillet, dans la nuit du 8 Thermidor, Saint-Just rédige l'acte d'accusation de Carnot et de quelques autres députés ou membres du comité. Mais vous savez que le 9 Thermidor, quand Saint-Just se rend à la Convention pour obtenir le vote et la condamnation, il commence son discours. Il ignore qu'un certain nombre de députés se sont ligués contre Robespierre. Ça va être la chute de Robespierre. À mort, le dictateur et sa clique, les conspirateurs à la lanterne. Robespierre et Saint-Just sont déclarés hors la loi, ils vont bientôt être jugés, guillotinés, et vous voyez qu'une fois encore, Carnot a sauvé sa tête de justesse. En 95, il est le seul membre du comité de salut public à faire encore partie du directoire, le nouveau gouvernement. Et il va pousser l'élégance jusqu'à défendre un certain nombre de ses collègues du comité. Un seul fait répondra, ce me semble, pour les prévenus, c'est que la France était aux abois lorsqu'ils sont entrés au comité de salut public et qu'elle était sauvée quand ils en sont sortis. C'est une façon aussi de se défendre lui-même, de dire,
je suis peut-être pas toujours fier de tout, mais au moins nous avons sauvé la République. Il va pouvoir poursuivre ce qu'il avait commencé dans ce contexte chaotique, hein, la construction d'un système d'enseignement d'excellence pour former les nouveaux cadres avec une école centrale des travaux qui deviendra la célèbre école polytechnique, un concours d'entrée avec égalité d'accès sans distinction de titre, tous les meilleurs professeurs du pays dans cette école et le buste de Carnot qui trône aujourd'hui encore dans le hall de Polytechnique. Il va aussi créer l'école normale de l'an 3 qui sera plus tard normale sup. Carnot est toujours ministre de la guerre, mais il faut qu'il compte avec l'homme fort du directoire, qui est Barras. Il dénonce les tendances despotiques de Barras et le soupçonne même de préparer un coup d'État. Et Carnot, de nouveau, va s'exposer au risque d'être arrêté. Vous voyez que c'est pas le courage qui manque à Carnot. Hein. Il envoie sa femme et ses enfants à la campagne et la nuit à l'hôtel de Luxembourg, où il vit. Il dort tout habillé avec les bottes aux pieds. Il est prêt à fuir. La nuit du 18 Fructidor en 5, on est donc en septembre 97, remue-ménage, on vient de l'arrêter, alors il saute de son lit, le voilà déjà dans le corridor, il ouvre une grille qui débouche sur les jardins et le voilà qui s'échappe par les jardins du Luxembourg dans l'obscurité. Les jours suivants, il va déguiser, gagner la Suisse. Vous savez qu'à sa place, Barras va faire entrer au directoire quelqu'un qui avait défendu la frontière italienne à la demande de Carnot d'ailleurs, et qui n'est autre que le général Bonaparte, bien sûr. Carnot est maintenant en repos forcé, si je puis dire. Il en profite pour mener ses recherches en physique, en mathématiques. Il publie des essais qui vont faire référence. Et pendant ce temps-là, c'est le coup d'État mené par Sieyès. Le coup d'État des 18 et 19 Brumaire. On est en novembre 1789. C'est ce qui porte Bonaparte au pouvoir. Et que fait le premier consul, sitôt installé? Il rappelle Carnot au ministère de la guerre, le temps de mener lui-même la seconde campagne d'Italie. Carnot revient, retrouve ses ennemis d'hier, hein, Fouché, Talleyrand, Cambacérès. Bonaparte ensuite va nommer Carnot au tribunat, qui est une sorte de... c'est la chambre haute, hein, c'est une sorte de deuxième sénat, si vous voulez. Et depuis ce tribunat, Carnot, pour la troisième fois, va se dresser contre un despotisme, et cette fois contre celui de Bonaparte. Il vote contre le consulat à vie, et le 1er mai 1804, quand Bonaparte proclame l'Empire, voici ce qu'écrit Carnot. Quelques services qu'un citoyen ait pu rendre à sa patrie, il est des bornes que la raison impose à la reconnaissance nationale. Le dépôt de la liberté lui était confié, il avait juré de la défendre. En tenant cette promesse, il eut rempli l'attente de la nation, il se fut couvert d'une gloire incomparable. Je vote contre la proposition.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Autant dire qu'il est en retrait de ce premier empire qui s'installe et... quand Napoléon se trouve en difficulté militaire, néanmoins, on est là en décembre 1813, Carnot, qui maintenant a 60 ans, va offrir ses services. Il n'a pas du tout envie de voir revenir l'ancien régime. Hein. Napoléon accepte et Carnot va s'en aller défendre la ville d'Anvers, avec efficacité d'ailleurs, jusqu'après l'abdication de Napoléon au printemps 14. Et quand Napoléon reviendra pendant les 100 jours, il fera de Carnot son ministre de l'Intérieur. Et c'est à ce moment-là que Carnot imagine une instruction ouverte à tous par la mise en place de l'école primaire. Programme qu'il n'aura pas le temps d'appliquer, 100 jours c'est court hein, évidemment, et quand Napoléon pour la deuxième fois, la seconde fois, abdique, il dit à Carnot « Monsieur Carnot, je vous ai connu trop tard ». Sans doute, on pourrait faire un peu d'histoire-fiction et se demander ce qui serait advenu de Napoléon et de son régime si avec Carnot il avait pu s'entendre. En tout cas, Carnot avait été loyal, visionnaire depuis toujours. Louis XVIII et Fouché le savent très bien. Ils lui proposent de rester d'ailleurs, lui qui avait voté la mort du roi. Hein. Mais là, il n'en est pas question. « Quoi qu'il soit de mes principes qu'il ne faut jamais désespérer du salut de la patrie, j'avoue que je ne me crois pas de force à pouvoir la servir utilement. Quand j'offris mes services à Bonaparte en 1814, je surmontais ma répugnance pour servir mon pays. Mais les offrir au roi, non. » Ce serait blesser toutes les convenances. C'est assez beau d'ailleurs, parce que ce ne sont pas ses convictions que met en avant Carnot dans le refus qu'il oppose à la proposition du roi Louis XVIII. C'est d'une certaine manière la cohérence même de sa pensée, c'est l'intégrité même d'une morale qu'il ne veut pas salir en faisant le contraire de ce contre quoi il avait toujours lutté. Juillet 1815, Fouché est toujours là. Il dresse une liste de 56 proscrits, dont Carnot, qui va devoir encore s'exiler. Aussi incroyable que ça paraisse, cet homme qui avait tant servi la France ne la reverra jamais, la France, puisqu'il va mourir en août 1823, à l'âge de 70 ans, en Prusse, figurez-vous, mais oui, à Magdebourg.
Vous écoutez Radio Classique.
Merci beaucoup à Pierre Anquetin d'avoir ressuscité Lazare Carnot, je précise. On n'a pas besoin de la ressusciter parce qu'elle est bien vivante. C'est notre Pauline. Bonjour Pauline.
Bonjour Franck. Mais alors vous allez ressusciter à 14h une autre grande figure. Alors imaginaire cette fois-ci, c'est Carmen. Et puis dans un mois, tout pile, le 19 février prochain, c'est Carmen encore qui sera au programme de votre prochain concert Salle Gaveau, c'est
oui,
ça?
Oui, Carmen et Bizet d'une façon générale, puisqu'on entendra des airs méconnus de Bizet qui pourtant sont aussi incroyables, vous entendrez ça, que ceux de Carmen. Je pense que dans la salle, certains vont faire des découvertes.
Et puis il y aura la garde montante pour reprendre un air de
Bizet. Ça c'est nous ça.
C'est vous là, évidemment, c'est vous. Mais vous serez bien entouré aussi, vous ne serez pas tout seul Franck. Il y aura deux jeunes merveilleux chanteurs.
Ah oui, on peut le dire.
Eugénie Jonot.
Exactement.
Mezzo-soprano. Et Julien Henrich. Et ainsi qu'au piano Antoine Paloc, avec qui vous avez déjà présenté plusieurs concerts.
Mais oui, et on va faire, je pense, la répétition du siècle. Là, j'ai hâte de retrouver Eugénie, Julien et Antoine.
Eh bien, nous aussi, on a bien hâte. Toutes les informations sont sur le site de la Salle Gaveau, sallegaveau.com. Donc, rendez-vous dans un mois tout pile, le jeudi 19 février, 20h30, pour vous retrouver très bien entouré, Franck. D'ici là, bonne journée.
Bonne journée à vous.
Et à demain.
Après 50 ans de mariage, ma femme c'était mon repère. Autant vous dire qu'à son décès, j'ai été déboussolé. Je ne savais pas vers qui me tourner. Alors j'ai appelé le 32 urgence décès. Un conseiller PFG m'a orienté et puis s'est occupé de tout.
PFG sera toujours à vos côtés. Alors en cas de décès, appelez PFG au 32 pour une prise en charge immédiate de jour comme de nuit. Urgence décès 32, un service PFG.
Chez GMF, être assurément humain, c'est s'engager dans des relations durables. Pour bien démarrer l'année, GMF vous offre 2 mois de cotisation pour la souscription d'un contrat d'assurance auto. Et ce, jusqu'au 31 mars. GMF, assurément humain. Conditions de l'offre sur gmf.fr.
Radio Classique et la Salle Gaveau vous donnent rendez-vous en février pour 4 concerts d'exception. Le prodige du piano Lucas Schisch joue Mozart avec l'orchestre L'Amoureux. La soprano Nadine Sierra et le pianiste Brian Waghorn vous emmènent de Debussy à Villa-Lobos. Jean-François Zigel réinvente les fables de La Fontaine au piano. Et enfin, Sandrine Pio, Jérôme Correas et les Paladins célèbrent les héroïnes de Handel. Découvrez le programme du 1er au 20 février et réservez vos places sur salgavo.com. Salle Gaveau, la musique en grand.
Le soleil italien s'invite à la Salle Gaveau. L'orchestre L'Amoureux et Adrien Perruchon vous offrent un ciel aux teintes adriatiques en février, accompagné de la mandoline de Julien Martineau. Un concert où les mélodies dansent, de la symphonie italienne de Félix Mendelssohn aux chaudes couleurs des œuvres de Raffaele Calace, sans oublier l'ouverture en ut majeur de Fanny Mendelssohn. Viva l'Italia! Un voyage entre mandoline et orchestre, le 8 février, à réserver sur salgavo.com.
Bonjour, c'est Alain Duhaut. En décembre prochain, je vous propose avec Radio Classique un tour de la Baltique en musique à bord du Commandant Charcot, navire de la flotte Ponant Exploration. Avec en invité vedette le grand violoncelliste Gauthier Capuçon, entouré de ses amis dont les pianistes Franck Bralet et Jérôme Ducrot, entre autres. Un parcours magnifique, des artistes formidables, ce sera Noël en avance.
Réservez votre croisière Ponant Radio Classique du 3 au 12 décembre 2026 au 04 91 300 888 sur ponant.com ou dans votre agence de voyage.
Maison Philippe.
Pour la succession, nous avions une myriade d'objets dont nous ne savions que faire.
Nous avons donc fait appel à la Maison Philippe.
Ils se sont déplacés.
Ils ont estimé le prix et ont payé comptant.
Ils ont tout débarrassé. Un vrai soulagement.
Objets chinois, livres, tableaux, sacs à main, montres, bijoux, bibelots, objets en or et en argent, même défectueux. Appelez la Maison Philippe au 06 07 58 23 23. 06 07 58 23 23. Maison Philippe, Antiquité Raspail, Paris 6e.
Renault.
Découvrez la nouvelle génération Renault. Découvrez Renault 5 E-Tech électrique fabriqué en France dès 160 euros par mois avec 5 740 euros de prime gouvernementale coup de pouce. Pendant les portes ouvertes du 15 au 19 janvier, 2 mois de loyer offert.
R5 Evolution 120 chevaux hors option. LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 2700 euros. Prime maximum, certes énergie déduite, si accordiaque. Troisième et quatrième loyer offert. Offre à particulier du 15 au 19 janvier. Conditions Renault.fr. Pensez à covoiturer. Renault.
Union des coopératives agricoles françaises. Invivo s'engage pour une agriculture résiliente, souveraine, rentable et durable. Invivo accompagne la transition agricole et soutient notre souveraineté alimentaire avec des solutions innovantes et responsables au service des agriculteurs. Avec Invivo, cultivez vos connaissances éco dans le décryptage à 7h54 sur Radio Classique.
Dans un instant, changez d'air avec Pauline Lambert sur Radio Classique.
En France, 3 millions de personnes sont atteintes d'une maladie génétique. Vous pouvez les aider. En faisant un leg, donnez du sens au combat des chercheurs de l'Institut Imagine, comme le Dr Saunier.
Faire un leg, c'est accélérer la recherche, identifier la cause de la maladie chez les enfants, leur apporter un diagnostic, une meilleure prise en charge et trouver des traitements adaptés.
Transmettez l'espoir, transmettez la vie. Faites un leg à l'Institut des maladies génétiques sur institutimagine.org.
midi, changez d'air avec Pauline Lambert sur Radio Classique.
Quelle joie de vous retrouver en ce lundi matin, juste après Franck Ferrand et avant Jean-Michel Duez à midi. Je suis ravie de passer avec vous ces 2h30 en bonne compagnie, puisque vous êtes si nombreux et si fidèles pour changer d'air ensemble. Chaque jour un peu plus nombreux et cela me réjouit. Alors mille merci. Nous sommes aussi en très bonne compagnie ce matin. Bertrand est aux manettes et Jérémy a programmé cette émission. Il y aura des chefs, toute une pléiade de chefs d'orchestre hongrois qui émigrent aux États-Unis et qui vont complètement transformer la sonorité des orchestres. Fritz Reiner, le premier d'entre eux, mais aussi Georges Zell, Eugène Normandie, Antal Dorati, tous vont améliorer radicalement la qualité, l'opulence, la densité des cordes, l'éclat des cuivres à Cleveland, Philadelphie, Chicago et Détroit. Ce sont donc ces chefs hongrois installés aux États-Unis que je vous propose d'écouter pour changer d'air. Et nous commençons tout de suite avec Aaron Copland, cette danse, ce rodéo, cette valse du samedi soir. La valse du samedi soir pour prolonger un peu l'ambiance du week-end. L'une des danses de Copland, l'un des pages de ce rodéo, joué ici par Antal Dorati et l'orchestre symphonique de Detroit en américain. Grande phalange qui a donc été dirigée pendant longtemps par Antal Dorati, qui fait partie de ces chefs d'origine hongroise qui ont fait carrière aux États-Unis. Alors, retour maintenant sur la côte est des États-Unis à Philadelphie avec un chef qui lui bat tous les records de longévité. C'est Eugène Ormandy qui reste quasiment 50 ans à la tête de l'orchestre de Philadelphie de 1936 à 1980. Et donc, en un demi-siècle, il a le temps, Eugène Ormandy, de forger le son de cet orchestre, de lui donner une palette de couleurs incroyables, un sens du legato aussi, des coups d'archet légendaires. Il était lui-même violoniste et ensemble, Ormandy et Philadelphie ont gravé plus de 1200 œuvres.
Thank you.
Toute la beauté et la poésie de Greensleeves, cette fantaisie de Ralph Vaughan Williams, jouée par l'orchestre de Philadelphie, dirigée donc par Eugène Ormandy, qui en a été le directeur musical pendant un demi-siècle. Vous venez d'entendre la densité des cordes, la beauté aussi des instruments à cordes. Mais après la côte Est, départ maintenant pour l'Illinois, l'orchestre de Chicago, fondé à la fin du 19e siècle. Mais c'est seulement à partir des années 50, avec Fritz Reiner, chef d'origine hongroise, qu'il prend véritablement son envol, chef exigeant, autoritaire, qui multiplie les répétitions avec l'orchestre, qui multiplie aussi les licenciements et à force de discipline collective, l'orchestre de Chicago devient l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur orchestre américain, avec sa brillance si caractéristique et ses vents rutilants.
Thank you.
Et vous avez sûrement reconnu cette musique, c'était évidemment le générique d'Apostrophe, l'émission mythique de Bernard Pivot. Premier mouvement du premier concerto pour piano de Rachmaninoff, enregistré en 57 par Baron Janis, l'orchestre symphonique de Chicago et Fritz Reiner, premier d'une longue série donc de chefs d'orchestre hongrois qui vont transformer la sonorité des orchestres américains. Fritz Reiner n'est évidemment pas le seul, je vous parlais d'Eugène Ormandy, d'Antal Dorati, il y a également Georges Zell, mais nous n'avons plus le temps de l'écouter car il est presque 10h sur Radio Classique.
Radio Classique, la radio musicale la plus podcastée de France.
Franck Ferrand raconte.
À l'époque où surgit sur la scène de l'histoire ce personnage de Jeanne, pucelle d'Orléans, on est vraiment au fond du gouffre en France.
Les histoires en musique d'Élodie Fondacci.
Encore une histoire.
Il y a très longtemps, vivaient au Vietnam un roi et une reine qui avaient une fille d'une extraordinaire beauté. Vous trouvez ça classique? Avec l'orchestre Appassionato.
Et ces accords semblent nous emmener loin, très loin.
Et toujours la même chose, cher Mathieu. Je crée de l'émotion, donc je me préoccupe de ce que vous ressentez.
Des livres et des notes avec Fabrice Lucchini.
Beethoven est une magnifique preuve de l'âme. Si jamais l'inadhérence de l'âme et du corps a éclaté, c'est dans Beethoven.
Tous nos podcasts sont à retrouver sur radioclassique.fr
et sur vos plateformes de streaming habituelles.
Sophie Lemonnier-Valaise, violoniste et directrice musicale de Voyage d'Exception.
Voyage d'Exception, c'est le spécialiste des croisières musicales. Des voyages uniques, des bateaux haut de gamme et à taille humaine. Des fleuves majestueux, le Danube, le Douro, la Moldau ou encore la Seine. Une ambiance intimiste avec Jean-François Zigel, Philippe Bernold, Laurent Corsia, Dana Ciocarli et d'autres musiciens de renom qui partagent avec vous leur passion pour la musique.
Renseignements et réservations au 01 75 77 87 48 ou sur voyage-exception.fr.
Renault.
Découvrez la nouvelle génération Renault. Découvrez Renault 5 E-Tech électrique fabriqué en France dès 160 euros par mois avec 5 740 euros de prime gouvernementale coup de pouce. Pendant les portes ouvertes du 15 au 19 janvier, 2 mois de loyer offert.
R5 Evolution 120 chevaux hors option. LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 2700 euros. Prime maximum, certes énergie déduite, si accordiaque. Troisième et quatrième loyer offert. Offre à particulier du 15 au 19 janvier. Conditions Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Renault.
La Pologne s'invite à l'Auditorium de Lyon. La chef Marta Gardolinska fait rayonner son pays natal avec l'Orchestre National de Lyon et le violoniste Thomas Zedmer en 3 œuvres qui peignent une Pologne éternelle. Du concerto pour orchestre de Lutosławski à la polonaise de Tchaïkovski jusqu'aux influences populaires manifestes dans le 2e concerto pour violon de Szymanowski, parcourez la Pologne musicale les 5 et 7 février en réservant sur auditorium-lyon.com.
Bonjour, c'est Franck Ferrand. Vous connaissez et vous plébiscitez les rencontres de la salle Gaveau, où l'histoire et la musique se mêlent. Et bien cette fois, je vous invite à plonger dans l'univers de Bizet. Et c'est avec les très talentueux Eugénie Jauneau, Julien Henric et Antoine Paloc que nous aurons le plaisir de vous faire découvrir ou redécouvrir Carmen.
Carmen ou la liberté, un concert radio classique avec Franck Ferrand, le 19 février prochain, salle Gaveau à Paris. Réservation au 01 49 53 05 07 ou sur salgaveau.com.
Tempétueux, délicat, virtuose. L'orchestre Appassionato et Mathieu Herzog exaltent l'archétype beethovenien avec l'une des pièces les plus fidèles à son image populaire, le concerto pour piano numéro 3. Une œuvre à l'expressivité rare, magnifiée par le toucher du pianiste Ido Barchai, pour une soirée, vous trouvez ça classique, héroïque, le 24 janvier à la scène musicale.
Chaque jour, Marie pense à sa maman Françoise, 84 ans, qui lui assure être en pleine forme et dit ne pas avoir besoin d'aide. Pourtant, Marie sait bien que Françoise se sent seule et que les semaines sont parfois longues. Marie fait alors appel à Petit-Fils. Et depuis, sa maman se réjouit tous les jours de se promener au bras de son auxiliaire de vie.
Petit-Fils accompagne en douceur les grands-parents dans leur quotidien. Petit-Fils, l'aide à domicile sur mesure pour les personnes âgées. Petit-fils.com.
Ah,
Bah, chez Air Caraïbes, ils ont du XXL.
Du XXL ?
Eh oui, confort XXL pour voyager en classe premium économie dès 999 euros ou en classe affaires à partir de 1499 euros.
Pour aller où ?
Guadeloupe, Martinique, bref, toutes les destinations Air Caraïbes. Tu vois, je te l'avais dit que j'avais besoin du XXL.
XXL pour la classe, le siège et le service aussi.
Jusqu'au 22 janvier 2026, profitez des instants promo d'Air Caraïbes et voyagez avec un confort XXL. Rendez-vous sur aircaraïbes.com. Offre soumise à condition.
Air Caraïbes, la compagnie haute en couleur.
Radio Classique,